cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 23 avril 1993.
Nous allons continuer cet effort sur la critique. Alors, il y a une petite question. Quand on dit dans un genre donné, ce qui est premier relativise tout le reste, s'agit-il d'un axiome? Sur quoi est-il fondé? Je dirais, c'est nécessairement un axiome. Et voyez pourquoi. Parce qu'on part du genre. Le genre, comme tel, est un être de raison. C'est l'universel fondamental. C'est le premier des prédicables. Il se prend du côté de ce qu'il y a de plus fondamental dans les réalités. C'est pour ça que saint Thomas dira « ex parte materiae ». Le genre se prend toujours du côté de ce qu'il y a de fondamental, de premier. Et il y a référence au genre comme à l'égard de l'intelligibilité la plus commune. La donnée générique, c'est ça. Vous voyez, on voit ce mouvement-là dans l'œcuménisme, quand l'œcuménisme est mal compris. On essaie de trouver la note commune de tout le monde. C'est très bien de faire ça d'une certaine manière, mais ça peut être aussi très dangereux. Est-ce que l'unité doit se faire par la finalité et l'amour? Alors à ce moment-là, ça réclame de tout le monde d'aller plus loin. Au contraire, l'unité consiste à affirmer le moins possible. Donc une régression pour tout le monde. On régresse. Puisque on gomme tout ce qui serait différent. Et la différence est qualitative. Elle se prend de la qualité, se prend de la forme. Mais ça fait très bien comprendre cela. Parce que quand on essaie d'entrer un tout petit peu dans ce que représente le mouvement œcuménique, où il y a des choses très belles, et puis il y a cette compréhension, il y a deux compréhensions, par le sommet ou par le fondement. Le genre est fondamental. C'est ce qui peut rassembler. Heidegger dira recueillir. On voit très bien ce que ça veut dire. Rassembler le plus possible. Le genre est toujours très indéterminé. Et tout ce qui risquerait de qualifier la différence spécifique est à écarter. Alors, à ce moment-là, vous voyez comment ça ne peut être qu'un axiome. C'est pas du tout un principe propre. Dans un genre donné, ce qui est premier, alors, mesure tout le reste. Mesure, c'est-à-dire à partir de ce qui est premier, tout le reste est relativisé. À cela, tout le reste ne peut se réaliser qu'en impliquant un lien avec le genre. Donc il s'agit d'un axiome dans l'ordre de l'intelligibilité. Puisque l'axiome est dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais ça se prend du côté de la cause matérielle. Et le fondement, c'est la cause matérielle. Ce « à ce qui génétiquement est premier dans l'ordre génétique. C'est toujours le point de vue le plus indéterminé, le premier génétique. Alors, parce qu'il est premier, il est d'une certaine manière mesure de tout le reste. Tout le reste est relatif à lui. Mais c'est une mesure prise du côté matériel et pas du côté de la finalité. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. C'est très important, je le redis, de bien faire la distinction entre tout ce qui est axiome et tout ce qui est principe propre ou cause. Alors, cet axiome serait découvert du côté logique. C'est l'axiome qui commande la logique, puisque c'est un prédicable genre. Donc ça repose sur les 5 prédicables et montre le fondement de toutes les autres attributions. Tout ce qui est attribué essentiellement à quelque chose est relatif au genre. Donc c'est vraiment un axiome dans l'ordre logique de l'attribution, de la logique de l'attribution. Je n'insiste pas plus. Nous avons vu jusque maintenant, hein, en comprenant bien ce que représente cet aspect de la philosophie réflexive. On critique en premier lieu sa propre démarche. La philosophie est critique par rapport à elle-même en premier lieu. C'est le propre de la sagesse. Et on ne peut critiquer les autres qu'après, en faisant attention. C'est-à-dire que se critiquer soi-même, c'est tout simplement faire le point. L'attitude réflexive, la relecture métaphysique de la philosophie. On dirait, en termes psychologiques, une relecture. Est-ce que tout ce que j'ai dit, ou est-ce que sur quoi ça s'appuie? Quel est son critère de vérité? Là. Et c'est ça que la critique cherche. Donc, attitude réflexive. Il y a deux attitudes réflexives de la philosophie. La critique et la logique. La critique et la logique sont très proches et sont pendant distinctes. La critique n'est pas du tout un art, tandis qu'il y a dans la logique quelque chose d'artistique. Ça devrait dire ars artium, l'art des arts, c'est la logique. Parce que c'est l'art de l'intelligence qui construit ses raisonnements. Et c'est l'intelligence qui construit ses raisonnements. C'est le propre de la logique. C'est un art et en même temps, il y a une connaissance comme dans tout art. Mais là, il y a une connaissance très particulière. La connaissance de l'universel. De l'être de raison. Toute la logique repose sur l'universel. Tandis que je ne dirais pas que toute la critique repose sur l'universel. C'est ça qui montre la différence entre les deux. La critique repose sur ma manière de connaître. C'est-à-dire au fond le procédé d'abstraction. S'il n'y avait pas d'abstraction, il n'y aurait pas de critique. Si tout était intuitif, quand quelqu'un dit qu'il a une intuition et que vous mettez à critiquer l'intuition, il n'en démord pas. David, vous n'avez pas l'intuition de ce que j'ai, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais des intuitions affectives, des intuitions artistiques, ça existe. Des intuitions mathématiques. Quand Henri Poincaré montre ce que c'est que l'intuition mathématique, un passage très intéressant montre bien. saisit une relation qu'on n'avait pas saisie avant. Et on est là devant quelque chose de premier. Tout ce qui est premier, d'une certaine manière, est au-delà de la critique. Je ne critique que ce qui est second. Tandis qu'en philosophie, on cherche tout ce qui est premier. Et l'universel est le fruit de ma connaissance. Donc c'est jamais premier. La logique présuppose toujours une connaissance. Et elle est au service de cette connaissance pour la fortifier, la clarifier, montrer avec plus de netteté les nervures. Mais elle est toujours seconde. La pensée philosophique existe avant la logique. Historiquement, c'est très net. Et à chaque instant, on peut, et on doit du reste, comprendre ces trois aspects, la connaissance philosophique, comme il y a la connaissance mathématique, comme il y a la connaissance scientifique. Ces niveaux différents et respecter ces niveaux différents. La critique va préciser ces niveaux différents et va essayer de montrer les fausses alliances, ce qu'on appellerait les amalgames, les fausses alliances, les a priori. Ce sont de fausses alliances. Et elle va essayer de découvrir le fondement de toute ma connaissance. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la connaissance? Pas dans l'ordre du réel. Et donc, le bienfait de la critique, c'est de pouvoir montrer que ce que j'atteins par ma connaissance philosophique n'est pas identique avec le réel. Le réel, la réalité, jugement d'existence, ceci est antérieure à ma connaissance. Ma connaissance le dévoile, mais elle le dévoile comme quelque chose d'antérieur, comme quelque chose de fondamental et de premier. Et en critique, je me situe dans ce qui est connu. Tout le dédale de mes connaissances. Et si on poussait la critique jusqu'au bout, on fait la critique très élémentaire entre nous. C'est la critique de ma connaissance philosophique, c'est très élémentaire. Il faudrait la continuer, et si on peut, on la continuera. Dans tout le dédale de toutes les connaissances scientifiques. Alors là, vraiment, terrain, du pain sur la planche, on devrait la pousser dans la connaissance artistique qu'atteint le poète, dans la connaissance affective. La connaissance affective n'est pas scientifique, la connaissance poétique n'est pas scientifique, mais c'est quand même une connaissance. Le poète pense. Et la connaissance affective implique aussi une connaissance du bien. Donc, c'est tout ce domaine, on dirait aujourd'hui, du vécu intellectuel. Ce qui est le vécu intellectuel. Et on cherche le fondement. Quel est le fondement de ce vécu intellectuel? Et c'est très proche de ce que Husserl fait. Mais on y reviendra là-dessus. Je ne regarde pas d'abord Husserl. J'essaie, dans une philosophie réaliste, de comprendre la place de la critique. Et de comprendre que la critique, tout le temps, me montre le passage, la diaphora, la différence qui existe entre ce qui est atteint de la réalité et ce que j'ose dire, ce que ce que je saisis de la réalité, ce que j'assimile. Et c'est dans ce que j'assimile de la réalité que j'essaie de trouver le fondement. La pierre fondamentale sur laquelle tout l'édifice se construit. Il y a une pierre fondamentale dans tout édifice. Or, il y a un édifice extraordinaire de la connaissance. Quand on voit toutes les connaissances humaines, on n'arrivera jamais à les saisir toutes, mais on peut avoir des amis dans ces différentes connaissances pour qu'ils nous fassent au moins deviner tout ce cheminement extraordinaire. C'est prodigieux. Au Moyen-Âge, on a construit des cathédrales. Aujourd'hui, on construit des cathédrales de la pensée. Ce sont des cathédrales de la pensée. Avec des petites chapelles latérales. Mais il y a quand même la nef. Il y a quand même l'altitude. Et au fond, c'est ça que la critique doit comprendre. Elle doit saisir tous ces cheminements. Et pourquoi cette diversité? Pourquoi cette complexité? Le fondement de cette complexité et de cette diversité. Et comprendre que la réalité est antérieure à ma connaissance, mais que ma connaissance est le fruit de mon intelligence, de ma raison, et que tout ce que mon intelligence saisit et connaît, elle doit l'ordonner. Cette fameuse, là aussi c'est un axiome, le propre du sage est d'ordonner. Quand je suis devant une pensée chaotique, c'est une pensée qui est encore embryonnaire. C'est pour ça que très facilement, la certitude mathématique risquera de considérer que la connaissance affective, la connaissance poétique, ils ne sont pas toujours très ordonnés, sont très chaotiques. Et sont embryonnaires. Et d'une certaine manière, c'est vrai. C'est embryonnaire. Parce que le but de la connaissance poétique, de la connaissance affective, n'est pas la vérité. C'est une certaine vérité. Mais ce n'est pas la vérité tout court. C'est pour ça qu'on les voit en dernier lieu. Et en dernier lieu, on verrait ce que nos connaissances sensibles peuvent saisir de la réalité. Répondre à Descartes. Alors, nous avons essayé de comprendre quelle était la découverte radicale et fondamentale du concept. Où le situer dans la démarche intellectuelle. Autrement dit, réfléchir sur la structure de mon intelligence à partir des deux grandes opérations, le discernement, le jugement et le raisonnement. Et j'ai laissé de côté le raisonnement puisqu'il est complexe et qu'il présuppose des jugements. Et nous avons regardé qu'est-ce que c'est que le jugement. Et nous avons essayé de comprendre que le jugement n'est pas premier, n'est pas simple. Et donc, au-delà du jugement, il y a des saisies. Une opération élémentaire qu'on appelle l'appréhension. Et je crois que ça, c'est très important parce que ça nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que l'intuition et qu'est-ce que c'est que l'expérience. C'est quand même très important de voir la différence entre intuition et expérience, tous les deux impliquant sens que là, il y a d'abord cette saisie intuitive pour voir ensuite si cela existe, si cela est réel. On partirait donc de l'intuition et on vérifierait si elle est réelle. Mais nous laissons de côté, vous pouvez le noter simplement. Il serait intéressant à voir ce qu'est l'intuition. Je vais regarder ce que c'est la philosophie platonicienne et ta base d'intuition. Ben, c'est évident, la très grosse différence entre Aristote et Platon. Aristote, c'est l'expérience, Platon, c'est l'intuition. Vous avez Parménide et Héraclite. C'est la même chose. Parménide, c'est l'intuition. L'intuition donnée dans une inspiration. Alors là, il y a intuition de l'être. Mais c'est Parménide. Et c'est pas Parménide directement, c'est la déesse. Il a une intuition quand il donne la main à la déesse. Et la déesse lui fait comprendre ce que c'est que l'être. Et c'est une inspiration. Ça ne peut pas se répéter. C'est là le côté très très délicat de l'intuition. J'ai une intuition, c'est très difficile pour moi de vous la communiquer. Il ne suffirait pas de se mettre dans la même situation que moi, dans le même fauteuil, sur la même chaise, sur la même table. Et là, vous aurez l'intuition. Non. L'expérience peut se reprendre. C'est ça que l'expérience est au point de départ de la philosophie. Parce qu'elle touche le réel. Alors, elle peut se reprendre, elle peut se faire, se refaire. Avec l'intuition, j'ai eu une intuition et j'arrive difficilement à la retrouver. L'intuition de telle ou telle chose. C'est ce côté fugitif de l'intuition. Très éclairant, magnifique, mais il y a des intuitions affectives, ce qu'on appelle le coup de foudre. C'est une intuition affective. Jacob face à Rachel.
Se poser au point de vue critique.
sur les jugements hypothétiques. C'est un jugement qui porte sur le possible. Et donc qui demande d'être vérifié. Un souhait. Un souhait, c'est hypothétique. Si tu es gentil, fais-moi, fais ça. Pour moi. Oui, mais alors il y a un raisonnement. Ça, on y reviendra. C'est la logique stoïcienne qui part de l'hypothèse. Si. S'il fait beau aujourd'hui, demain il pleuvra. Ce qui arrive souvent. Hein. Vous avez une journée splendide et puis le lendemain, catastrophe. Ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez une journée merveilleuse. Avec une lumière étonnante. Et puis le lendemain, la pluie. Alors je peux dire, oh, de façon générale, oui, alors il y a une sorte de répétition, d'intuition dans ça, de ce lien, et on met ce raisonnement, mais ça, on verra ça, ce raisonnement stoïcien qui est très important, qui est très très important. La différence de la logique aristotélicienne et la logique stoïcienne. Alors, donc, ajouter intuition et puis jugement hypothétique, le souhait. On s'adresse à quelqu'un qui est plus haut que nous. Je prends la prière au niveau philosophique. La prière au niveau philosophique, comme Aristote en parle, comme Cicéron en parle. Normalement, c'est toujours un supérieur qu'on s'adresse quand on prie. À un supérieur, on s'adresse en disant « Vous qui pouvez tant, accordez-moi ça. » Tandis que quand vous adressez à un inférieur, vous ne dites pas ça. Alors, au point de vue humain, la prière va se lier à un petit peu de flatterie. Pas la prière divine, mais pas la prière religieuse, mais la prière humaine, la prière politique. Vous qui êtes si grand, vous qui êtes si majestueux, vous qui avez fait tant de choses, vous pouvez encore faire ce petit pont. Alors, il y a une forme de jugement très particulier, là. Je laisse de côté ça. Passons tout de suite à la troisième opération de l'esprit. Donc, appréhension, jugement, raisonnement. Au point de vue logique, le raisonnement, c'est la forme de pensée la plus parfaite. Faut pas l'oublier. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant à voir tout de suite. Au plan critique, nous l'avons mis en troisième lieu, parce que c'est la forme de pensée la plus complexe. Le raisonnement présuppose le jugement, et le jugement présuppose, ou inclut, non, présuppose pas, mais inclut l'appréhension. S'il n'y a pas d'appréhension à l'état pur, c'est un élément du jugement. Mais il y a des jugements à l'état pur. Il y a des gens qui affirment tout le temps, qui raisonnent jamais. Et puis il y a des gens qui raisonnent tout le temps et qui n'osent jamais affirmer. Si, 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 si. Et puis ça dure indéfiniment. Parce que dans le jugement, il y a une adhésion et on s'engage. Le raisonnement, c'est très très différent d'une forme d'esprit très particulière. Et c'est la forme d'esprit la plus complexe. Elle est complexe, hein. Il n'y a pas qu'un seul raisonnement. Alors vous voyez, au plan logique, et c'est intéressant à noter, et la critique doit être attentive à ça. Au plan logique, le raisonnement, cela sera la forme de pensée la plus parfaite. Et facilement, si on n'a pas une philosophie, la logique va l'emporter. Et on n'acceptera que ce qui est le fruit d'un raisonnement. Ce que Aristote dit absurde. Puisque tout raisonnement présuppose une forme de pensée qui n'est pas le raisonnement. Et il y a cette réflexion critique d'Aristote très intéressante. Si vous dites que tout est raisonnement, vous supprimez le raisonnement. Parce que le raisonnement qui conduit à la science, le raisonnement présuppose des jugements. Et le jugement implique des appréhensions. Alors c'est très intéressant de voir comment, par la logique, on arrive à considérer le raisonnement comme l'opération la plus parfaite de l'intelligence. On essaiera de comprendre les conséquences de considérer le raisonnement comme l'opération la plus parfaite de l'intelligence. C'est très intéressant à voir au plan critique, ça. Il faut reconnaître que le raisonnement achève. Mais ce qui achève n'est pas toujours ce qui est plus parfait. Parce que c'est peut-être un fruit dernier. C'est d'une certaine manière le fruit le plus logique de toute ma vie intellectuelle. C'est là où la logique joue le plus. Et c'est pour ça que nous aimons toujours beaucoup les raisonnements. Parce que c'est le fruit de notre pensée. Et on aime toujours ce qui vient de nous. Tandis que le jugement reconnaît quelque chose qui est antérieur à nous. Jamais le raisonnement. Oui, le raisonnement par le jugement. Mais le raisonnement est le fruit de ma pensée. Et donc on l'aime. On aime beaucoup les raisonnements. Ça, dans un monde comme le nôtre, on aime énormément les raisonnements. On raisonne tout le temps. Ça peut devenir une maladie de raisonner tout le temps. Parce qu'il faut se reposer dans le point de vue de la contemplation. Et la contemplation est au-delà du raisonnement. La contemplation implique un jugement, mais elle est au-delà. Alors vous voyez, d'un point de vue logique, le raisonnement c'est l'opération la plus parfaite. D'un point de vue philosophique, le jugement est antérieur au raisonnement. Et le jugement va permettre une opération de l'esprit plus parfaite que le raisonnement, qu'est la contemplation. Que la contemplation présuppose des raisonnements. Tout à fait. D'accord. Mais la contemplation est au-delà du raisonnement. Et la contemplation repose d'un jugement parfait. Donc, après le raisonnement, nous verrons ce que c'est que la contemplation. Parce que nous ne considérons pas que le jugement, que le raisonnement, c'est ce qu'il y a de plus parfait pour l'intelligence. Mais c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et surtout, ce qu'il y a de tout à fait particulier au raisonnement, c'est que il y a vraiment un fruit qui vient de nous. La conclusion d'un raisonnement, je dis bien la conclusion d'un raisonnement, c'est le fruit de mon raisonnement. Vous ne trouvez pas dans la réalité des conclusions. Tandis que vous découvrez des réalités existantes. Et les réalités existantes ne sont pas des conclusions, ce sont des faits, des points de départ. Tandis que la conclusion, c'est relatif aux prémices, c'est relatif aux propositions intérieures, antécédentes, et c'est à l'intérieur de ma connaissance. Alors, voyons que tout raisonnement implique trois termes. C'est là la complexité. L'appréhension. Un seul, le jugement, deux, et le raisonnement, trois. C'est le devenir de ma vie intellectuelle. Le raisonnement. Et je transpose la distinction être et devenir. Et je peux très bien faire cette distinction analogiquement. Ceci, ceci est le mouvement, le devenir. Donc l'être, la distinction être et devenir. Je dis bien la distinction, pas la séparation. On a vu toutes les positions philosophiques entre être et devenir. Les trois grandes positions philosophiques. Je nie le devenir pour ne regarder que l'être. Je nie l'être pour ne regarder que le devenir. Et j'essaie de comprendre l'être dans le devenir. Et non pas le devenir dans l'être. Mais donc il y a trois grandes positions philosophiques. Alors vous pouvez mettre en parallèle, analogiquement, le point de vue du jugement. Et le point de vue du raisonnement. Vous pouvez dire le devenir est à l'aide ce que le raisonnement est au jugement. Mais faisons attention à ces raisonnements analogiques, donc, en comprenant que c'est tout à fait différent. Mais il y a quelque chose de commun. N'est-ce pas ? Là, c'est intéressant parce que ça nous aide, comme toujours, le point de vue analogique, ça nous aide à progresser, à mieux comprendre. Mais la complexité du raisonnement. Le raisonnement, c'est le devenir de ma vie intellectuelle. C'est pour ça que le raisonnement regarde ce qu'on avait appelé la raison. Et le jugement relève de intellectus. Il ne faut surtout pas séparer intelligence et raison. C'est la même puissance. C'est l'esprit qui se développe du côté de l'intelligence. Mais de fait, le jugement relève ce qu'est l'intelligence dans ce qu'elle a de tout à fait caractéristique. Et le raisonnement de la raison, c'est-à-dire ma manière particulière d'être intelligent. L'homme raisonne. Et c'est par là qu'il montre qu'il est intelligent. Mais il sait que son raisonnement n'est pas tout. Au-delà du raisonnement, il y a le jugement. Avant le raisonnement, il y a le jugement. Oui. Et alors, c'est intéressant, c'est qu'on aurait, au point de vue critique, exactement les mêmes trois positions que du côté métaphysique. Être et devenir, jugement et raisonnement. On a les trois positions. Ce ni le raisonnement pour ne regarder que l'intuition. Bergson n'accepte au plan philosophique que les intuitions. Et le reste, c'est de la connaissance abstraite. Et Bergson a commencé par la science. Par certaines positions positivistes, et puis il en est sorti. Il en est tellement bien sorti, il a tout renié le reste. Position aussi de Heidegger au plan philosophique. Heidegger considère que la science n'a rien à voir avec la philosophie. Rien du tout. Penser l'être. Or, penser l'être implique la négation de tout devenir, de tout étant. Et l'étant, c'est ce que la science étudie. Ce que les sciences étudient. Donc il faut nier tout ça pour avoir l'intuition de l'être. Donc vous avez bien cette position. Il faut nier tout devenir pour que l'être apparaisse. Il faut nier tout raisonnement pour que l'intuition, penser l'être, l'intuition apparaisse. J'ai l'intuition de l'être. Première position. Vous mettrez toute une série. Parménide est comme ça aussi. Hein. Parménide, Heidegger, Bergson et toute une série. Ils sont en réaction violente contre la science et exaltent l'intuition. Et tout est dans l'intuition. un au-delà de l'expérience. Il le dira ouvertement. C'est un au-delà de l'expérience. Aristote est resté dans l'expérience. Saint Thomas a découvert l'intuition de l'être. Grâce à Maritain. Alors, il veut dire qu'il a découvert l'intuition de l'être. Il projette sur Saint Thomas ce que lui-même a découvert. Autre position, je ramène tout au raisonnement. Il n'y a plus de jugement, tout est raisonnement. Alors je tombe dans une espèce de relativité absolue. Et ce sera facilement le positivisme. Je n'accepterai que ce qui est dans l'ordre du raisonnement. Au point de vue philosophique, on voit très bien la position de ceux qui nient l'être et qui ne voient que le développement. L'évolutionnisme absolu. Tout se développe. Implique la relation, la relativité absolue. Et puis troisième position, la position qui consiste à comprendre qu'on est toujours en présence du devenir. Je progresse grâce au devenir. L'homme est un être qui demande de progresser tout le temps, et je peux progresser tout le temps. Je peux jamais dire c'est fini. Mais ce devenir s'appuie.